Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Aujourd'hui, on va parler, ça va être un petit peu dans la continuation finalement de ce dont on parle ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué cette espèce de déflagration politique qu'il y avait aux États-Unis, et c'est un peu finalement comme quand on regarde une explosion de très très loin. D'abord, il y a la lumière, on voit cet énorme champignon qui arrive, et puis après, il y a la déflagration physique, la dilatation de l'air, et on reçoit cette onde de choc finalement aujourd'hui un petit peu en Europe. Et cette onde de choc, elle est présente notamment au niveau de la politique internationale, avec ce discours de J.D. Vance, que alors faudra que je pense à le mettre dans la description. Une version sous-titrée en français pour vous. Ce discours était déjà absolument brillant, d'une grande clarté. C'est quelqu'un, J.D. Vance, de très articulé, de très intelligent, et ça se voit. Et je pense que, enfin, visiblement, ça a perturbé énormément d'élites européennes qui, elles, ont évoqué une sorte d'humiliation de l'Europe. Et alors, j'étais pas tout à fait d'accord, parce que je fais une différence entre une humiliation de l'Europe et une humiliation de la technostructure européenne. Est-ce que c'était les deux, ou est-ce que c'était juste une humiliation de la technostructure?
Non, c'était une condamnation ferme et sans appel de la technostructure et un appel de J.D. Vance à l'Europe de retrouver ses racines.
C'est un peu ça, oui.
Non
C'est même
pas
carrément ça.
ses racines chrétiennes, quoique, parce qu'il est très chrétien, il s'est converti au catholicisme en 2019, je crois, mais à ses racines spirituelles, philosophiques, etc., qui est la primauté de l'individu sur le groupe, et ce qui suppose la liberté d'expression. Et ce qu'il a dit très fort, au sens où ça fait mal, c'est qu'il a dit aux élites européennes, mais cessez d'avoir peur de vos peuples.
Oui, absolument.
Et ça, c'est une phrase remarquable, parce que on retrouve toujours la même notion, n'ayez pas peur. Mais là, il dit, vous gouvernez contre une partie de la population que vous n'admettez pas dans votre population, comme susceptible d'être partie à la discussion. Et ça, c'est-à-dire, c'est un déni à la fois de nos racines et de notre système politique, parce que, par définition, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, y compris des bêtises.
Oui. Effectivement, c'est vrai que c'était un appel à la liberté, alors à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de manière générale. Et d'ailleurs, il l'avait fait aussi dans la conférence de Paris par rapport à l'intelligence artificielle, où il, en fait,
Une avis ne réglementait pas.
voilà, c'est-à-dire que c'était arrivé cette conférence de Paris dans un contexte un peu particulier où il y avait l'IA française Mistral qui venait d'émerger et qui était bien placée sur l'Apple Store, donc qui avait un certain succès. Et derrière, Macron s'est en quelque sorte réapproprié cette réussite, un peu comme si c'était lui qui l'avait fait, ou du moins qui l'avait permise. Et derrière, il a annoncé des investissements de l'État de 100 milliards dans l'intelligence artificielle,
Dont on n'a pas le premier sou.
dont on n'a pas le premier sou. Et J.D. Vance, en fait, est arrivé en disant, mais vous n'avez rien compris à comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le domaine de l'intelligence artificielle n'a pas besoin comment dire, d'intervention de l'État. Elle a besoin, au contraire, d'une restriction de l'État par rapport à lui-même. Et d'ailleurs, c'était dans le contexte de cette conférence qu'on apprenait que, potentiellement, même c'est à peu près certain à 100%, cette IA française, Mistral, ne respecte pas les RGPD européens. Donc en fait justement on voit un succès français, et ben comme par hasard il ne respecte pas
Et qui
les
avait été mis en
règlements
place par qui? Par Monsieur Breton,
par Monsieur Breton,
à qui
par Van der Leyen, etc. quoi.
par Van der Leyen, et à qui comme Monsieur dont Monsieur Vance a parlé deux fois dans sa conférence de presse pour dire que ce qu'il faisait c'était que des grosses bêtises, quoi.
Oui.
C'était donc il s'est flingué Breton de façon extraordinaire. Mais encore une fois, c'est pas pour me vanter. Mais enfin, si vous reprenez le livre que j'ai écrit il y a un an, qui s'appelait La vérité vous rendra libre, je disais que c'était une tentative de prise de pouvoir par une espèce de technocratie qui pensait être sachante, et qu'elle devenait de plus en plus légale et de moins en moins légitime,
Oui.
et que ça allait s'écrouler très rapidement, comme toutes ces tentatives se sont toujours écroulées dans l'histoire, comme l'Union soviétique, comme tous ces empires fondés sur les soi-disant sachants s'écroulent toujours. Et c'était ce qui était en train de se passer. Donc moi, je suis extrêmement. J'expliquais il y a un an et demi que ça allait s'écrouler et que ça me rendrait très positif. Donc oui, c'est en train de s'écrouler, ça montre positif. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'aux États-Unis, le woke est en train de se faire défoncer, il va plus rien rester, quoi. Ceux qui soutenaient le woke sont tous en train, ont perdu les élections de façon extraordinaire, et on se rend compte en plus qu'ils ne tenaient la presse, etc., que en pillant l'État, quoi. C'était,
oui, en plus, oui, tout à fait. C'était aux frais du contribuable, ouais.
C'était, donc, la question qu'on peut se poser, c'est, on a eu quand même un énorme impact du woke en Europe. Il y a beaucoup de gens qui l'ont soutenu. Et ces gens, quand on voit ce qui s'est passé aux études, l'ont-ils soutenu par conviction? Auquel cas, ce serait parfaitement honorable. On a le droit de se tromper, hein, c'est. Ou ont-ils soutenu parce qu'ils étaient achetés? Et achetés par qui? Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, bon, on commence à voir les noms des gars qui ont été achetés aux États-Unis, le New York Times, etc. Bon, tout ça, ça a reçu beaucoup de pognon. On commence à se rendre compte que la corruption était absolument gigantesque aux États-Unis. Très au-delà de tout ce qu'on pensait raisonnable.
Oui.
Maintenant, je voudrais savoir exactement les Cohen sur France Radio, etc., France Inter, etc., est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, ou est-ce qu'on leur a dit de dire ça? Est-ce qu'ils ont été... Donc, ce que je me demande à tous mes amis américains, j'en ai quelques-uns quand même, qui sont près de ces prix milieux-là, est-ce que je pourrais avoir la liste des gens qui ont touché des quelque chose de USAID, vous savez, la machine...
Tout à fait.
En France. J'aimerais bien savoir qui a touché des...
Ouais,
est-ce que la campagne de M. Macron, la première ou la deuxième, ont touché de l'argent? Est-ce que... Apparemment, les grandes ONG de Soros touchaient des paquets de pognon.
Oui, pareil, c'est toutes les fondations de Clinton.
La fondation de Clinton, la fin... Mais encore ça, ça touche que les États-Unis.
Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les gens en France...
En France et en Europe qui ont bénéficié de ces trucs-là.
Est-ce que Mme von der Leyen a reçu du pognon directement?
Oui.
Est-ce que maintenant, si vous voulez, c'est... Autant je considère... Et je vais être très clair, si vous voulez, si ces gens pensaient vraiment que toutes les conneries woke, c'était le futur et tout, que c'était comme ça que devait être, par conviction, on peut avoir une discussion avec eux, leur essayer de montrer qu'ils se trompent, de leur montrer qu'ils se trompent, et ensuite faire voter les gens et puis que le meilleur gagne, quoi. C'est la démocratie. Mais s'ils ont été achetés pour faire ça, ils n'ont pas du tout la même capacité à réclamer le droit de discuter, quoi.
Bah, c'est clair.
Mais pour moi, c'est ça la question, c'est est-ce que les ennemis que nous avons eu en face de nous étaient des gens honorables ou des gens achetés? Et s'ils étaient achetés, par qui et pourquoi?
Je pense qu'il y en a énormément qui ont été achetés. Alors, je n'ai pas la liste.
Mais il faut l'avoir, il va falloir qu'il fasse
oui, la sorte. Mais certainement, je pense que quelqu'un fera ce boulot. Et en plus de ça...
Ça ne sera pas Mediapart. Hein.
Là, non, ça c'est clair. Bah justement, peut-être que Mediapart figure dans ces papiers-là. Oui, en plus de ça, jusque-là, on a vu que l'USAID. Mais il y aura certainement d'autres trucs exactement du même acabit qui sortiront. Voilà. C'est pas impossible que le Pentagone aussi finance
le Pentagone. Mais par exemple, bon, on n'a jamais réussi à vendre nos avions Rafale à l'Europe.
Ouais.
Est-ce que c'est parce que ils sont moins bons que les F-35 ou j'en sais rien? Ou est-ce que c'est parce que les gars en face ont été achetés?
Ah, oh bah, les gars en face ont été largement achetés, c'est clair.
Ben oui, mais ça, ce serait. Donc quand ils.
C'est presque. Même s'ils sont pas littéralement achetés, comment dire, c'est presque une sorte d'abonnement détourné à l'OTAN, quoi.
Oui, mais ça, l'abonnement détourné à l'OTAN, là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont été corrompus eux-mêmes? Et si oui, où, comment, par où c'est passé, par quelle banque? Parce que c'est très facile de remonter tout ça. Hein.
Oui, effectivement, oui.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité individuelle. Si ils peuvent dire, écoutez, je pense que l'Europe a besoin de l'OTAN pour se défendre, j'ai rien à dire. Mais si vous avez reçu du pognon...
Oui. Des Américains avec derrière, vous avez la capacité de prendre ce genre de décision pour... Effectivement.
Donc c'est ça qui me gêne beaucoup. C'est que tous ont soupçonné qu'il y avait un petit peu de corruption, mais les chiffres qui sont en train de sortir des États-Unis sont au-delà, mais à la puissance 10 de tout ce qu'on... C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment, quand je regarde les États-Unis, que depuis je sais pas combien de temps, ça a été gouverné par une bande de brigands qui pensait qu'à s'en mettre plein les fouilles.
Oui.
Moi, je dirais, en tout cas, on commence à avoir les preuves depuis les Clinton, mais je sais pas s'il y en avait avant. Mais la corruption semble avoir été, avoir d'un niveau qui sont, et ce qui m'embête, c'est que par exemple, là, on vous dit, il y a des tas de gens, il y a 30 millions de personnes, 28 millions de personnes, là, qui ont au-dessus de 100 ans aux États-Unis, qui touchent des subventions de l'État.
Bon. Parfois même de 150 ans.
150 ans, oui. Bon, mais ça, c'est ridicule.
Comme quoi, le système de santé américain.
Oui, c'est mal qu'on le dit. Mais c'est pas, ça me gêne, mais ça me, bon, c'est une bêtise. Mais est-ce que ces gens-là votaient?
Non, bah, peut-être pour, peut-être en 2020, peut-être que ceux de 150 ans, ils ont tous voté pour Biden en 2020, on retrouve les mêmes.
Mais c'est ça que j'aimerais savoir.
Ouais, ouais.
Parce que, en principe, si vous voulez, vous pouvez aller voter avec votre, carte de la Sécu, quoi, c'est.
Ouais.
Donc. Parce que si vous êtes complètement corrompu, par exemple, dans un domaine, allez, vous vendez à Pfizer. Mais à ce moment-là, vous essaierez de corrompre d'autres gens pour que Pfizer reste au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire, que les gens. Donc, si la corruption, ça s'arrête nulle part, ça va partout. C'est-à-dire que si vous avez corrompu le système politique, vous allez corrompre le système social, vous allez corrompre le système économique. Et on n'a que du capitalisme de connivence partout, et on n'a plus que des brigands.
Ouais.
Et c'est ça qui m'affole, c'est que je me dis, mais je disais, c'est aux gens, les États-Unis ont été capturés par une classe criminelle, mais c'est bien pire que tout à ce que je pouvais penser. Par exemple, on se demande aujourd'hui s'il y a encore de l'or à Fornox, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc je me dis, mais c'est fou, quoi. Mais si c'est comme ça chez eux, imaginez chez nous.
Et puis c'est absolument généralisé dans la technostructure européenne. Déjà, en fait, il suffit de se balader, je pense, ne serait-ce qu'une fois dans ces bureaux,
et
ça m'est déjà arrivé. Et en fait, on se rend pas encore compte, je pense, de l'ampleur de la machine, mais tous ces bureaux qui ne servent absolument à rien à part à faire des rendez-vous avec des lobbyistes, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines.
Et il y a beaucoup plus de lobbyistes, je crois, qu'il n'y a de fonctionnaires à la Commission.
Ça m'étonnerait pas.
Il y a beaucoup plus.
Ouais.
C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'à la Commission, maintenant, c'est... Le rôle des parlementaires, c'est d'aller bouffer avec un lobbyiste qui lui présente en quelque sorte le projet de loi qu'il doit présenter
Oui. Au
nom de l'industrie qui est en train de faire du lobby. Quoi.
Avec une petite enveloppe de cash peut-être
juste à côté. Qu'on retrouve chez quelques parlementaires grecs qui sont à droite.
Ça peut arriver.
Et donc, est-ce que nos structures de gouvernement, nos structures d'administration sont devenues telles que partout vous avez une corruption, mais type tiers-monde. Et vous savez très bien que dans un pays, quand la structure administrative devient corrompue, la croissance s'arrête.
Oui.
Parce que s'il y a quelque chose qui marche très bien, c'est un indice de corruption avec la croissance.
Hein. Oui, tout à fait. En fait, le marché est dysfonctionnel parce qu'effectivement, après, on a des énormes boîtes qui fonctionnent juste parce qu'elles ont des contrats de gouvernement, parce que le gouvernement est achetable. Et en revanche, derrière, vous pouvez faire avancer tout un tas de réglementations qui n'ont rien à faire.
Mais qui empêchent vos concurrents de venir.
Qui empêchent, tout à fait. C'est, en fait,
c'est ce que disait ce bon Milton Friedman, là, oui. Il disait toujours, quand le pouvoir de l'État augmente trop, la première des choses qu'un homme raisonnable doit faire, un homme d'affaires raisonnable doit faire, c'est d'acheter le fonctionnaire. Parce que c'est quand même le meilleur investissement qu'il puisse faire, vous achetez un fonctionnaire, et puis hop,
tout à fait.
Vous pouvez ensuite régler le sort de vos concurrents, empêcher les importations, tout ça est parfait. Il y a quelque chose qui s'est pété à la gueule, je sais pas ce que c'est.
Oui, je crois que c'est le livre derrière.
C'est le livre
derrière. Oui, il a décidé. Il est tombé de sa chaise.
Il en est tombé de sa chaise, pourtant, ça, on lui expliquait tout ça là-dedans très bien. Donc oui, il y a eu une espèce de complot gigantesque pour qui était à la fois en disant moi je suis le type qui sait donc je dois mettons le type Attali, je dois gérer parce que je suis le plus intelligent. Mais je suis le plus intelligent donc je me sacrifie pour le bien commun. Donc il est normal que j'ai quelques petites retombées quand même.
Oui.
Et qu'on me tu vois, je veux dire tout ça c'est dégueulasse.
Oui. Oui, en fait, on se rend pas compte. Je pense que on a un esprit, et c'est tout à fait normal. En tant qu'Européen, on doit croire à la démocratie, et donc on doit se dire non, mais ces gens-là, ok, peut-être il y a des comment dire, il y a des
quelques
mauvais
brebis galeuses,
voilà, quelques brebis galeuses, quelques mauvais petits canards.
Mais effectivement, la
structure en elle-même repose sur des bases extrêmement malsaines, ouais.
Mais voilà, et donc si c'est tout le système qui est comment un peu, donc on comprend pourquoi personne ne fait de la politique non plus, parce que s'il faut faire de la politique, il faut rentrer dans ces espèces de combines à la noix. Et si vous êtes un honorable, vous dire non, je ne vais pas faire ça.
Bah c'est oui,
pas
évidemment.
Donc vous vous retrouvez qu'avec des crapules, quoi. Mais c'est ça qui m'embête, si vous voulez, c'est que on en avait fait le diagnostic ici, on dit il y a de la corruption partout et tout. Mais ce qui me paraît affolant, c'est ce qui sort des États-Unis. J'hésite même à le croire. Tellement c'est monstrueux.
Ouais.
On parle de.
Oui, c'est difficile à croire parce que moi j'ai un esprit extraordinairement anticomplotiste là-dessus.
Oui.
Où à chaque fois je me dis non mais c'est pas possible, ou alors on exagère, ou alors c'est vraiment un cas très isolé. Et puis parfois il faut savoir aussi affronter. Alors il faut pas non plus tout croire ce qu'on voit, mais il faut aussi
regarder la réalité. Les informations qui sont données par des gars qui apparemment ont accès aux données, quoi.
Oui, oui. Oui, quand vous avez une information qui a été confirmée, puis reconfirmée, puis reconfirmée, au bout d'un moment, oui, on peut commencer.
Et
à
vous voyez le Parti démocrate aux États-Unis qui dit c'est scandaleux, ils vont virer des fonctionnaires, regardez et tout. Mais si les mecs sont des crapules et ils ont laissé dérouler des crapuleries, ouais. Il faut pas simplement les virer, il faut les mettre en taule. Les prisons des États-Unis vont devoir accueillir un nombre de gens considérable, c'est ce qui semble émerger de ce que fait Musk. Et encore, il a à peine commencé à gratter parce que ça fait une semaine qu'il est dessus, ou 10 jours.
Et là, jusque-là, on a parlé que de l'USAID. C'est juste une agence parmi d'autres.
Le Pentagone, là, 900 milliards de budget. Et ça fait quoi, 4-5 ans? C'est depuis le père Bush. Hein, donc ça doit faire plus de 4-5 ans qu'ils n'ont pas eu un seul audit. Confirmé. C'est-à-dire que les auditeurs ont toujours refusé
Depuis le début des années 90.
Depuis le début des années 90. Ouais. Ils ont toujours refusé de donner un blanc-seing aux comptes qu'on leur présentait.
Et là, effectivement,
mais je signale que l'Europe n'a jamais été non plus reçu un audit.
C'est clair. Donc, oui, effectivement, l'équipe du Doge voudrait auditer le Pentagone. Et l'objectif, c'est de, apparemment, selon l'administration américaine, c'est de réduire les dépenses du Pentagone de 8% par an. Alors, je sais pas s'ils ont indiqué le nombre d'années, mais enfin, au moins de 8% par an pendant les prochaines années, quoi. Déjà, pour faire
faire monter la rentabilité, parce que on a bien vu. Clinton avait, autrefois, il y avait 300 ou 400 sociétés qui faisaient des offres, des appels d'offres, répondre aux appels d'offres du Pentagone. Et puis, Clinton avait demandé à ce que tout ça, il n'y en ait plus que 4 ou 5, ce qui favorise beaucoup quand même les ententes. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me suis laissé dire qu'un truc qui coûtait $2000, un missile que vous tirez de l'épaule, était passé à 24 000 alors qu'il avait pas changé, quoi.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi, c'est-à-dire que quand les gens me disent les États-Unis dépensent pour 900 milliards, ils sont donc énormément pas possibles, je leur dis sauf s'ils le payent 10 fois le prix.
Oui.
Donc, ils ont un armement de 90 milliards, et ça expliquerait pourquoi peut-être ils perdent toutes les guerres, quoi.
Il y a un peu de ça, oui, effectivement. Il y a des avions qui coûtent nettement trop cher.
35 millions de dollars l'avion.
Ça
peut être descendu par un drone à 30 000.
Donc ça va être des sociétés, Lockheed Martin en premier, qui vont bénéficier de ce genre de choses. Mais même un certain...
Raytheon. C'est incroyable. Donc, j'arrive, je regarde ça, je me dis, mais dans le fond, on a fait le diagnostic du capitalisme de connivence, de la corruption, etc. Mais on était très en deçà de la vérité. Enfin, je sais pas, encore une fois, j'attends les chiffres et tout, mais les premiers chiffres qui sortent sont ahurissants.
Ouais. Et ça d'ailleurs, vous aviez dit il y a quelques mois que l'administration américaine allait devoir faire au moins un écrémage dans son budget, alors que ce soit dans la santé ou que ce soit dans l'armement. Visiblement, alors je pense que dans la santé, ça va quand même avoir un petit peu lieu. Il y a tout de même
RFK. Kennedy, il n'a pas commencé à bosser encore.
Voilà, Kennedy, il est encore en vacances, ou alors il prépare je sais pas quoi. Mais là, effectivement, donc on vient parler de la défense. Donc effectivement, là, c'est en route. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que l'armée américaine sera moins efficace.
Non, pas du tout.
Voilà, elle peut être même... peut-être beaucoup plus efficace tout en ayant moins de dépenses. C'est tout à fait possible.
C'est toujours pareil. Ce qui compte pour un soldat, c'est son indépendance, sa capacité de raisonner par lui-même et d'avoir des bonnes armes. Ça fait 30 ou 40 ans que ce qu'ils disent en Russie, nous en Russie, on fait des armes pour gagner la guerre et aux États-Unis, ils font des armes pour gagner de l'argent. C'est donc si vraiment aux États-Unis on a fait des armes pour gagner de l'argent, les guerres qu'ils ont déclarées partout sont complètement insensées, complètement immorales.
Oui, effectivement. Bah, ce qu'on va voir, je pense, dans les prochaines années, c'est un net recul de peut-être du nombre d'avions qu'on va avoir dans les différentes armées. Non pas que les avions sont totalement inutiles, mais que effectivement, si vous voyez, vous prenez, je sais pas, un F-35, vous prenez le coût d'un F-35, vous comparez l'efficacité que peut avoir au combat un F-35 par rapport au coût que représenterait l'équivalent, mais avec des milliers de drones. Je pense que vous faites largement fois plus de
et vous faites
de mal
pas tuer le pilote. Non, et le pilote, il vous coûte la peau des fesses à former.
Oui, aussi, oui.
Donc, on voit exactement ce qu'on a vu au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire un système où la tête s'est engorgée, prend tout le pognon, les gens en dessous deviennent de plus en plus pauvres, jusqu'au moment où les gens en dessous se disent « Mais qu'est-ce que je fais avec ces gars-là là-haut ? Ils ont l'air de bien vivre et moi je vis comme un roi. » Et ce système est en train d'imploser exactement comme l'Union soviétique. J'avais dit l'empire du mal a été remplacé par l'empire du mensonge dans mon dernier livre. Ben, l'empire du mensonge, il est en train de s'écrouler sous nos yeux.
Oui, tout à fait.
Et par la vérité, encore une fois, ben, la vérité est annoncée, ce qui dépensait vraiment, ce qui faisait vraiment du pognon. Et tous ces grands honnêtes hommes sont des crapules.
Oui.
Les Clinton, qui reçoivent 80 millions de dollars de USAID, là, pour faire des repas gratuits en Inde ou je sais pas où, et il y en a que 1200 qui ont été servis, tout le reste du pognon est resté au Clinton. Mais ces gens-là, les Clinton, ils devraient être enfermés au fond d'une prison. Je sais pas ce que vous en pensez, quand on donne 80 millions de dollars, c'est beaucoup de pognon, 80 millions de dollars.
Ah oui, oui,
à une petite qui a jamais rien fait comme Chelsea Clinton.
Et qui apparemment en aurait utilisé quelques-uns pour financer son mariage, selon toute vraisemblance.
Et s'acheter une maison. Non mais
dans un premier temps c'est très difficile pour le cerveau d'accepter cette réalité si c'est véritablement confirmé, c'est-à-dire que c'est à vous dire il y en a plusieurs qui ont évoqué cette information et mon cerveau a encore besoin de confirmer cette information pour être vraiment sûr.
Vous savez quand Bokassa faisait ça au Centrafrique, on se disait quand même ils sont pas sérieux. Mais c'est pire.
Ouais. De toute façon, en général, ce genre d'information, soit la réalité est pire, soit juste le récit initial est faux, mais c'est assez rare qu'il y ait autant d'informations sur des trucs complètement faux.
Je sais pas. Donc, pour moi, c'est la révélation du cancer. Normalement, quand l'Union soviétique est tombée, si on avait été avec des gens normaux au pouvoir, on aurait dit, bon, mais les gars, l'OTAN, ça sert à rien, on n'a plus de danger. On supprime l'OTAN, on coupe les dépenses militaires, on arrête les conneries comme la tentative de construction européenne parce qu'on n'a pas besoin d'un grand État, chaque petit État peut se protéger, et que le meilleur gagne, quoi. C'est-à-dire revenir vers une société de liberté. Pas du tout, on est allé vers une société qui s'est figée de plus en plus, qui a fait de plus en plus de règles, de règlements, et on comprend pourquoi, c'est que dans le fond, ils cherchaient à s'enrichir personnellement. Ce qui est inouï.
Oui, effectivement, on a une micro-classe qui profite littéralement d'un point de vue financier de ce genre de trucs.
Qui a profité de ce genre de trucs. Ils étaient tous en... Ce que je comprends pas non plus, c'est que si je veux te faire transférer 5000 euros de mon compte à Hong Kong parfaitement légal à mon compte en France, je dois mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge, demander pardon,
Faire 14 formulaires.
Et là, ces gars-là, ils ont donc touché des centaines de millions de dollars, mais...
Oui, mais c'est de l'argent beaucoup plus propre, parce que
Mais où est-il cet argent? Parce que aujourd'hui, si vous voulez, tout l'argent passe par le système de paiement SWIFT. Hein,
oui.
Partout. Et ça, c'est complètement sécurisé. C'est-à-dire que vous voyez d'où l'argent arrive.
Oui, on retrouve
et ensuite, vous pouvez suivre toutes les transactions qu'il a fait. Donc, vous pouvez savoir que cet argent, il est parti de la trésorerie américaine et qu'il a terminé, après de nombreux passages pas partout, dans une île des Caraïbes.
Oui.
Cette île des Caraïbes ne peut pas recevoir ce genre d'argent sans que la trésorerie américaine soit au courant, parce que si vous arrivez aujourd'hui avec 30 millions de dollars dans une île des Caraïbes en disant « je vais ouvrir un compte ici », ils vous envoient péter en disant « cher ami, 30 millions de dollars, dites-nous d'où ils viennent, etc. » Donc ça veut dire que les gens qui étaient à l'origine du pognon, prévenait ceux qui allaient poser des questions à l'île des Caraïbes qu'il fallait pas poser de questions.
Ouais.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est dans le temps, la corruption, ça passait toujours à un moment ou à un autre, parce que j'appelais la rupture physique, c'est-à-dire que vous arriviez avec des valises de billets. Vous ouais. preniez des valises de billets, je sais pas, aller chez Lombardier, vous traversiez la rue, vous allez chez UBS, ouais. et vous déposiez les billets.
Oui.
Mais donc, le passage physique faisait qu'il y avait une rupture
oui.
du lien. Là, oui. c'est plus possible.
Oui, là, tout est informatique.
Tout est informatique, donc vous suivez les 0 et les 1 partout où ils sont.
Ouais.
Donc, ce que je veux dire, c'est que s'ils le veulent vraiment, ils vont remonter tous les circuits de corruption. Mm. Par exemple, on saura peut-être ce qui est arrivé. La fameuse commission que monsieur Macron a touchée pour la vente de...
d'Alstom.
Du truc, quand il était chez Rothschild, vous savez, de l'eau minérale, ou je sais
d'accord,
pas quoi,
oui, ouais.
avec Nestlé.
Ouais.
Donc, si c'est le cas, s'il y a une volonté politique de remonter toutes ces... pour faire, en quelque sorte, pour faire crever l'état profond une fois pour toutes... Je comprends qu'il y a des gens qui doivent commencer à avoir la trouille. Hein.
C'est clair. J'ai noté deux choses très intéressantes. C'est l'augmentation de la recherche Google pour un avocat
oui.
à Washington D.C. Alors d'un seul coup, voilà, depuis deux semaines à peu près, le nombre de recherches, donc le terme lawyer,
d'un avocat.
Je crois que ça a été multiplié par 4 par rapport à la normale. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est alors ça veut pas forcément dire que vous êtes corrompu, mais il y a énormément de ventes de logements aussi à Washington D.C. Donc le prix du mètre carré à Washington D.C. est en chute libre actuellement.
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi quand on regarde Washington D.C., c'est que sur les 3 ou 4 comtés les plus riches des États-Unis, il y en a 2 qui sont autour de Washington ou autour de Washington. Or, ils produisent rien.
Oui, absolument.
Si vous êtes du côté de San Francisco, là. Dans la Silicon Valley, le mec, oui. il produit des tas de trucs,
oui,
il se passe
clair.
Des choses, tandis que là, il n'y a rien, si ce n'est la corruption.
Ouais. Corruption, captation de l'argent du contribuable, c'est que ça.
Donc c'est quand même étonnant que l'endroit le plus riche, c'est l'endroit, vous me direz, le 6e et le 7e à Paris, ça doit être les arrondissements les plus chers aussi.
Ah bah
à Paris.
Oui, bah maintenant
c'est. C'est pas nouveau, ça.
Ah oui, maintenant c'est plus cher que le 16e, le 6e, donc oui, tout à fait. Mm-hmm. Ce sont les quartiers qui sont les plus enrichis depuis 20 ans.
C'est bizarre. Hein.
Tout à fait bizarre, effectivement.
Est-ce qu'on a recherche de lawyers à Paris? Est-ce qu'on a regardé?
Non, mais en même temps, ils sont pas, pour l'instant, ils sont pas trop menacés par là jusque-là l'état profond.
Mais c'est
à Paris, ça tient.
La question, c'est si l'état profond, si les gens qui sont aux États-Unis veulent se débarrasser de l'état profond américain,
ouais.
ils vont vouloir se débarrasser aussi des filiales.
Oui, tout à fait.
Et donc, ils vont lâcher le morceau sur les filiales.
Oui, tout à fait.
Donc, les gens dans le 6e ou le 5e ou qui sont dans le coin, il faudrait peut-être bien de faire un peu gaffe et commencer à prendre des billets d'avion.
Et puis, ce qu'on voit, encore une fois, pour refaire le lien avec le discours de J.D. Vance, c'est que, alors, Elon Musk, lui, évidemment, il est très concerné par ce qui se passe dans son pays, mais il s'intéresse aussi à ce qui se passe ailleurs, et notamment, donc, on avait parlé, bien sûr, de ce qu'il disait sur les grooming gangs au Royaume-Uni, le fait qu'il soutenait le parti Reform, donc de Nigel Farage, même s'il avait eu formulé une petite critique de Nigel Farage, mais il soutient quand même le mouvement, et il soutient aussi l'AFD en Allemagne, donc, dont les élections vont avoir lieu au moment on tourne cette émission dans quelques jours. Alors il s'est pas encore trop intéressé à la France, mais effectivement il s'intéresse à l'Europe. Le discours de J.D. Vance montre un soutien à cette démarche de Elon Musk. Donc effectivement, à mon avis, ils vont vouloir se débarrasser des filiales parce que actuellement c'est les derniers soucis qu'ils peuvent avoir, c'est dans les pattes, c'est effectivement cette technocratie européenne qui essaye d'empêcher Washington de faire son jeu. Mais enfin pour l'instant.
Alors, on comprend que les Européens soient un peu déçus parce que depuis 30 ou 40 ans, ils faisaient toujours ce que leur disaient les États-Unis. Et maintenant, les États-Unis arrivent, qui ont de nouvelles élections, et leur disent, vous n'auriez pas dû.
Oui, alors c'est effectivement.
Alors, c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes là tranquille, vous faites ce que le chef de la mafia vous dit de faire, et puis ensuite le type dit, il y a un nouveau chef de la mafia là maintenant.
Oui.
Vous allez passer par les armes parce que vous avez obéi au précédent.
Oui.
Ben c'est ça, quand on obéit à un chef plutôt que d'obéir à son peuple, c'est le genre de truc qui peut vous arriver, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est très intéressant. Ça faisait depuis plusieurs années, notamment avec Biden, mais aussi c'était déjà le cas avant, qu'il fallait suivre le chef américain.
On n'avait pas le droit à la parole, d'ailleurs.
Coûte que coûte.
Donc, il foutait en l'air vos pipelines ou n'importe quoi, mais ça, il fallait pas en parler.
Voilà. Et là, maintenant, depuis quelques semaines, les États-Unis sont non même plus un allié, mais on a l'impression que pour certains, ils sont même devenus un ennemi. Quoi.
Bah, ils sont devenus un ennemi des États profonds locaux que les États-Unis eux-mêmes ont créé.
Ouais.
C'est assez rigolo quand même. Mais en même temps, je suis très content qu'ils le fassent. Mais je comprends que les gars, c'est comme le gars qui avait vendu son âme, je sais pas à qui, à Hitler ou j'en sais rien, et qui ensuite est désolé de voir que Hitler lui avait donné l'ordre, mais en deux pots, il a perdu la guerre, quoi. Et donc, et ensuite, lui, il a des ennuis. Mais oui, il y avait une guerre entre le bien et le mal. Vous avez choisi le mal, vous avez perdu, et ben, vous plaignez pas maintenant.
Oui, bah c'est clair. En fait, c'est tout à fait logique, effectivement, que ce soit dans un, enfin, avant l'administration, c'était les États-Unis. Aujourd'hui, c'est toujours les États-Unis. Sauf qu'il y a eu une lutte interne vraiment très très puissante.
Et qu'ils ont tout fait. Les filiales ont tout fait pour que Biden soit élu. Ils ont tous poussé en faveur de Biden. Ils étaient tous pour Biden. Quand Trump a été élu, ils étaient désolés. Et bien tout, sûr, ils savaient. Hein.
Avec Musk ou même avec le discours de Vance, tout simple. Là, il redécouvre le mot souveraineté et ingérence. C'est formidable. Toute prise de parole d'un officiel du régime américain sur l'Europe est une ingérence en soi. Dès que Elon Musk fait un tweet, et Dieu sait qu'il en fait, c'est une ingérence.
Quand est-ce qu'il dort celui-là ?
Alors je sais pas parce que
il fait 42 trucs à la fois.
J'avais vu une infographie sur les heures en moyenne sur lesquelles Elon Musk tweetait, et à peu près que entre 2h et 5h du matin où il tweete un peu moins. Mais sinon en dehors c'est vraiment impressionnant.
Il doit dormir, je sais pas, 2h par nuit ce mec.
Oui, je pense. Forcément, peut-être pas 2 heures, mais à mon avis, il fait des nuits de 4 heures sans problème. Hein. Parce que pour faire ce qu'il fait, à mon avis, on est un peu obligé. Et derrière, donc le sujet que je voulais évoquer aussi, c'était l'Ukraine, puisque toute ce discours, il a eu de J.D. Vance, il a eu lieu à Munich. Et que l'objet de la conférence de Munich, c'était un petit peu la situation de l'Ukraine. La sécurité en Europe.
D'ailleurs, les gars, ils faisaient dans la salle, là, où pendant le discours, ils tiraient tous des gueules de 2 mètres de long. Hein.
Ouais, ouais.
Ils étaient pas joyeux parce que vous aviez là tout l'OTAN, tous les généraux, tout le personnel de Madame von der Leyen et tout, et ça, ils ont dû se dire merde, qu'est-ce qui nous arrive, quoi.
Ouais, c'est
clair. Effrayant. Donc l'Ukraine, ce qui est en train de dire Trump, hein, qui est en charge, il dit bah, écoutez les gars, ça va se régler entre Monsieur Poutine et moi.
Oui, absolument.
Et les Européens, j'en ai pas besoin, ils savent rien.
Ouais.
Et alors les Européens crient comme des putois, mais je sais pas ce qu'ils peuvent faire.
Bah d'ailleurs, ils ont essayé de faire une conférence de Paris, une sorte de contre-conférence de Munich, sans les États-Unis. Il en est absolument rien ressorti. Enfin, c'est juste criant. Les gars, vous essayez de faire un truc, et quand vous voyez, en fait, ce qu'on voit, c'est que justement, les pays européens, et c'est compréhensible, ne sont pas d'accord entre eux. Donc, comment vous voulez qu'il y ait une voix de l'Europe si vous n'êtes pas d'accord entre vous ?
En ce moment, on revient toujours. Ce que nous a dit Trump, c'est que En termes pas voilés du tout, d'ailleurs, c'est que la sécurité des Européens, c'était le boulot des Européens et que lui, c'était plus son boulot à lui, donc il allait enlever ses troupes. Vous savez, c'est toujours ce que j'ai dit. Dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc j'avais dit, l'Europe aura le choix entre la Turquie et la Russie.
Ouais.
Une fois que les Américains s'en iront, bon, il est tout à fait évident que les Américains font ça arriver. Et maintenant, ça va être la Russie ou la Turquie. Mmh. Ben, il va falloir choisir.
Mais est-ce que, selon vous, Trump veut vraiment mettre fin à l'OTAN, que ce soit de fait ou de droit d'ailleurs ?
Ben, je crois que moi, l'analyse que je fais, je sais pas du tout si j'ai raison, bien entendu, parce que je suis pas dans ce cas-là, je suis pas dans sa tête. Mais pour moi, si les États-Unis voient la façon dont le monde évolue et ils se disent bon, la Chine, ils vont gagner, là, c'est bon, pour des tas de raisons qu'on explique, bon. Donc il va y avoir le triangle qui va se créer entre la Russie, la Chine et l'Inde. Nous, à quoi on sert là-dedans? Rien. Donc ça va être la grande zone de développement. Notre flotte, elle sert plus à rien puisqu'elle peut être détruite par des trucs hypersoniques en 5 minutes. Donc je vais faire... mon but maintenant, c'est de faire la forteresse américaine.
Ouais.
Amérique du Nord, peut-être, avec Mexique et Canada, là. Peut-être Groenland, allez. Et puis, on se replie là-dessus. Et on s'intéresse plus au reste du monde, il le fait braire.
Ouais.
Moi, je crois que... On est en train d'arriver à l'étape suivante, qui est le grand isolationnisme américain. Et comme c'était leur tendance la plus profonde, mais que chaque fois ils ont été amenés dans les guerres qu'on faisait entre nous en Europe, ils disent du coup, nous on va plus toucher à l'Europe parce que ça, ouais. ça nous attend que des emmerdements. Donc, je crois que maintenant, il faut bien se faire à l'idée que je vois très bien ce qui va se passer en Asie. Bon. Je vois très bien ce qui va se passer aux États-Unis. En effet, ça me paraît jouable le coup. Je vois pas du tout ce qui va nous arriver en Europe, parce que nous, on est restés sans aucune protection extérieure, et on n'a pas de protection extérieure, et on n'a pas d'énergie. Et on a suivi des politiques énergétiques débiles. Aujourd'hui, on a l'énergie la plus chère du monde, les réglementations les plus importantes du monde, et le coût du travail le plus important du monde. Bon, ça veut dire que... On n'est pas vraiment... On est parti sur une espèce de truc qui était de sauver la planète. C'était ça le projet européen.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ouvrent 60 centrales à charbon par an en Chine et autant en Inde. Donc sauver la planète, tout le monde s'en fout, quoi. Mmh. Donc sauver la planète, ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer en Europe, parce qu'on a mis tout notre propre personnel diplomatique, tous nos efforts, etc., à sauver la planète. Le truc à zéro. Et tout le monde, ce qu'a dit dans son dernier discours Trump, c'est que le niveau zéro, c'était complètement imbécile.
Ouais.
Et donc, Trump nous dit que notre démocratie, notre diplomatie est imbécile, les buts à long terme, c'est imbécile. Il nous dit, bon, mais maintenant, mais démerdez-vous, les gars, puisque vous êtes incapables de vous gouverner. Et en plus, tous les gouvernements, apparemment, sont corrompus.
Ouais. Ouais, alors moi, j'ai une analyse un petit peu différente, mais il y a forcément un de nous deux qui aura tort, du coup. D'ailleurs, bon, après, je sais pas à quel degré lui représente véritablement la pensée de l'administration américaine, mais par exemple, ces derniers jours, là, quand on était à l'Arc à Londres, il y a eu une intervention de Mike Johnson, donc le président de la Chambre, qui disait que c'était pas dans les intentions des États-Unis d'abandonner en quelque sorte l'Europe. En revanche, je pense qu'effectivement, et ça c'est très très clair, il y aura beaucoup plus d'exigences venant des partenaires européens et peut-être un désengagement américain progressif à la lisière de l'Europe, c'est-à-dire peut-être dans les pays baltes ou en gros dans les pays qui peut-être ont rejoint l'OTAN après 1990. Ensuite, le reste, je ne sais pas, mais c'est clair que il y aura des relations un petit peu plus bilatérales.
Mais si on est ici pour rester, que les États-Unis restent dans l'OTAN, il faut qu'on paye 3% de plus par an de notre PIB à la défense.
Ouais.
On n'a pas le premier sou.
Ah, nous, non, c'est clair.
On peut pas.
C'est clair.
On peut pas. Donc, les Américains nous disent, bon, ils peuvent pas mettre 3% dans la défense, ils ont pas de jeunesse, ils ont pas de soldats, ils ont rien. Je crois que... Même l'Angleterre, qui était l'enfant, qui était les États-Unis sur la projection naturelle de l'Angleterre, est en train de tourner mal avec le Premier ministre actuel, et il s'oppose aux États-Unis. Donc même l'Angleterre, qu'on considérait comme notre mère, est en train de nous trahir. Donc, je quitte l'Europe et je leur dis merci beaucoup.
Hein. Ouais.
Pour moi, si vous voulez, il est tellement évident que les États-Unis vont devenir la forteresse américaine. Et puis, l'Asie va se développer autour de cette espèce de triangle gigantesque là, et que le centre financier sera Hong Kong. Je regarde l'Europe, je dis, qu'est-ce qu'on a à offrir ?
Actuellement, pas grand-chose. On a un énorme potentiel, notamment la France d'ailleurs. On est encore capable de créer des trucs incroyables, malgré justement toutes ces réglementations européennes et énergétiques, parce qu'on a eu
ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que on a des possibilités de s'en sortir à chaque niveau national.
Oui, effectivement.
Mais il y a pas dans la structure européenne actuelle, on s'en sort pas. Et par exemple, je pourrais très bien voir que on sorte, que l'Europe s'organise autour de deux concepts, la renaissance de l'Autriche-Hongrie pour nous protéger contre les Turcs et contre les Slaves, ce qui a été le rôle de l'Autriche-Hongrie pendant 400 ans, quoi. Mm-hmm. Donc on refait une alliance militaire qui va aller de Munich à la Pologne, en passant par la Tchécoslovaquie, et voilà.
Et l'Autriche, ouais.
L'Autriche, et bon, vous enfin, refaites l'Autriche en Hongrie, quoi. Bon, ça peut avoir une alliance militaire, là, ils peuvent se dépatouiller. Mm-hmm. Et puis la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce montent un système de verrouillage de la Méditerranée.
Ouais.
Donc on aurait deux alliances militaires, l'une maritime, l'autre terrestre.
Oui, avec des objectifs très différents.
Des objectifs très différents, mais ça serait jouable. Mais dans la structure actuelle, rien de ça là n'est faisable.
Mmh. Oui, effectivement. Ouais.
Donc il faut que l'Europe politique disparaisse pour qu'on puisse créer ces alliances qui nous sont utiles.
Oui, effectivement. Enfin, plus le temps passe, plus cette Europe technocratique se trouve être l'ennemi ultime des citoyens européens. C'est-à-dire, en fait, ça nous empêche totalement de s'en sortir.
Et même de leur défense, même de leurs intérêts. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas. Ils ont décidé de sauver le citoyen monde. Mais manque de peau, il n'est pas en danger d'abord.
Ouais.
Et puis ensuite, le citoyen monde, il leur a rien demandé. Donc c'est vrai, pour moi, c'est l'écroulement, ce qu'on a souvent dit, de la structure administrative qui a été mise en place par les Américains après 45. Vous savez, c'est mon cycle de 70 ans. Là. Il y a 70 ans de stabilité, 30 ans de merdier.
Ouais.
Bon, ben, c'est qu'une accélération de plus dans les 30 ans de merdier. Quoi.
Ouais, effectivement.
Et donc, espérons qu'il y a quelques hommes de génie qui vont se lever en France ou en Europe pour dire bon, c'est cette direction qu'il faut prendre, mais.
Ouais. Mais c'est vrai que on a l'impression que il y a pas énormément de il y a pas un énorme réveil politique à l'intérieur du pays, et que si changement il y a, et certainement ça va devoir arriver, ça va peut-être plus venir de conditions extérieures, c'est-à-dire qu'en fait finalement on sera obligé de s'adapter à une nouvelle réalité tout simplement, que vraiment un choix où justement on prend d'assaut la réalité.
On va voir aussi quels sont les gens qui vont être déconsidérés complètement par l'histoire de corruption là.
Oui. Ouais.
Et parce que ceux-là, ils n'auront plus droit à la parole, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Comme les gars qu'on a pris en 45 qui avaient aidé Pétain,
C'est clair que Musk est en conflit évident avec la Commission européenne.
Oui.
Y a un moyen très très simple de démonétiser la Commission européenne.
C'est de montrer qu'elle est corrompue.
C'est de montrer qu'elle est corrompue, puisque si elle l'est, venant de fonds américains, ils auront la capacité de le prouver.
Ça,
donc
évident, ça.
Voilà, ça, le choc peut venir encore une fois de l'extérieur par rapport
bien
à ça.
C'est-à-dire, est-ce que la grande question qui va se poser pour la construction européenne, c'est est-ce que les Américains aujourd'hui veulent détruire ce qu'ils ont créé qui ne nous intéresse plus?
Ouais.
S'ils le peuvent, ils le feront en 5 minutes.
Ouais.
Mais à mon avis, ils le peuvent, ils ont toutes les preuves.
Oui, ils le peuvent, et à mon avis, ils le veulent aussi. Ça c'est le grand truc qui a changé par rapport à
donc,
avant.
Attendez-vous donc à des grands changements et à la renaissance des souverainetés nationales. Mais ça, on va voir comment ça se passe. Il y a des pays qui sont déjà organisés pour ça, la Hongrie, la Pologne, d'une certaine façon, peut-être l'Autriche. On va voir les élections en Allemagne si madame... Alice, je sais plus quoi.
Alice, oui, Verdel, je crois.
Parce que ce qu'a fait Vivance, c'est qu'il a donné la permission aux citoyens allemands de base...
De voter comme il l'entend.
De voter pour Alice s'il en avait envie.
Oui, effectivement.
Et ça n'a pas dû tomber dans l'oreille de gens qui étaient sourds.
Oui, tout à fait. Je pense que si l'AFD fait plus de 25%, ce qui semble être véritablement une possibilité, ce sera un vrai choc politique pour l'Allemagne, et la CDU sera un peu obligée de gouverner avec elle, ou alors, aux prochaines élections, la CDU fera 15% et l'AFD fera 35%. Hein.
On se retrouvera dans le... Et c'est là où on se rend compte que là, stratégie du Rassemblement National suivie par Madame Marine est complètement débile. C'est au moment où le monde allait vers les idées de son père qu'elle a décidé de partir de la conquête de l'ancien monde.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est d'une tristesse.
C'est un peu ça, effectivement. Alors, je comprends le jeu politique qu'elle joue à un certain degré, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que peut-être
par exemple,
qu'il faut pas...
s'abstenir quand on nomme cette crapule président du Conseil constitutionnel.
Ouais.
on ne pourra pas croire que c'est pas une erreur politique.
Oui,
quoi.
Oui,
c'est vraiment
là,
se foutre du monde.
Là-dessus, véritablement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais me faire tout de même l'avocat du diable pour l'exercice. C'est que ce qu'ont évoqué certains justifiant cette position du Rassemblement National, c'est que peut-être si le RN s'opposait à la nomination de Richard Ferrand, donc à la présidence du Conseil constitutionnel, alors peut-être que Macron se tournerait plus vers la gauche pour faire nommer un président.
Mais on s'en fout, ça. Je veux dire, c'est pas le problème, ça, encore une fois.
Ouais.
Vous n'avez pas de raison de trahir, parce que l'autre va trahir encore plus.
Oui, en l'occurrence, c'est un peu ça le raisonnement.
Non, moi je vais me précipiter pour aider les Allemands, parce que sans ça, il y en a qui vont être encore plus traîtres que moi et qui vont me. Non. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Donc pour moi, si vous voulez, on est en train d'arriver à la fin de cette ère du mensonge, et nulle part le mensonge n'a été plus prégnant qu'en France.
Ouais.
C'est ça qui m'intéresse, c'est que voilà, c'est le pays où ce mensonge doit exploser.
Ouais.
Et ce qui me désole, c'est que le Rassemblement National, et ce soit dit, moi aussi je vais te faire partie du mensonge, parce que sans ça, j'arriverai jamais au pouvoir.
Oui, c'est un peu ça la stratégie, ouais, effectivement.
Ben c'est idiot, parce que le but, c'est pas d'arriver au pouvoir, c'est de proclamer la vérité, quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un peu un côté, je me rapproche du pouvoir actuel tel qu'il est, pour me faire bien voir et pour espérer qu'un jour on me laisse faire joujou avec l'État. Mais rien n'est moins sûr.
Et puis en plus, si vous voulez, le but, c'est pas... Je me souviens de Chirac qui voulait absolument être président de la République.
Oui.
Bon, il a tout fait, il a fait toutes les saloperies, tous les trucs. Et puis quand il était président de la République, il a rien fait parce que son but, c'était d'arriver au pouvoir. Oui. Mais pour en faire quoi?
Oui.
Rien.
Tout à fait.
Absolument. Donc si vous voulez, le but, c'est pas d'arriver au pouvoir, c'est un but à la con. Le but, c'est d'arriver au pouvoir pour...
Pour faire quelque chose, oui, bien sûr.
Vous voyez le Rassemblement National qui se fait à des... On a l'impression de se retrouver sous la troisième avec les rats de soc, quoi.
Ouais.
Leur but, c'est d'être, vous savez, les radis, là, toujours près de l'assiette au beurre, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement frustrant, et en plus de ça, parfois, alors, justement, quand on
heureusement,
voit
il y a,
chose...
il y a Ciotti et il y a le maire de Cannes qui...
Oui, effectivement.
Qui s'ajuste, qui ont les bons discours.
Oui, mais... j'apprécie la proposition de Ciotti, effectivement, ouais, effectivement, tout à fait.
Donc mais ils se tiennent dans une cabine téléphonique, hein, d'eux.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a encore un potentiel de croissance d'une droite un peu comme ça, en fait d'une droite véritablement de droite finalement.
Mais une droite qui dit sa vérité, qui dit ce qu'elle pense, oui. Qui essaye pas de
qui ne cherche pas la respectabilité.
La plaire à l'autre.
Mmh. Ouais, tout à
fait. On a marre de plaire à ces gens de gauche. Pourquoi vous leur plairez? Ils sont tous corrompus, achetés, ouais. Dégueulasses. Bah, c'est vous... ça qui va être bien avec. Ce brave Jean-Marie Le Pen, qui me faisait toujours rigoler, bien qu'il faille pas le dire, mais enfin moi je le trouvais marrant, parce qu'il disait ce qu'il pensait.
Ouais.
Et donc ça me disait, il exagère, mais tout, c'est pas... Mais il ouvrait sa gueule, tandis que ce truc de dire, faut fermer sa gueule, parce que sans ça on va fâcher les cons...
Oh. Ouais, il y a un concept que vous appréciez beaucoup, qui avait été développé par Nassim Taleb, c'est le concept d'antifragilité, ouais. Et je pense que ça existe aussi dans la politique, c'est-à-dire ouais. Que lorsque l'on construit toute sa solidité sur le fait de plaire en fait à l'adversaire, on est très fragile, parce que dès que l'adversaire décide véritablement de vous tailler, il y parviendra, parce que vous êtes fragile par rapport à ça.
Et puis surtout, il peut porter fragiles. Un jugement de valeur en disant non, j'accepte mmh. pas vos avances, parce que la grenouille à trois pattes dans l'étang de Berre, vous ne saisiez pas de la sauver, donc ils trouveront ouais. toujours une façon de vous déconsidérer.
Oui, tout à fait.
Tandis que si vous étiez avec Mme Thatcher, elle disait la grenouille à trois pattes dans l'étang de Berre, mmh. j'en ai rien à serrer.
On l'a très bien vu, l'exemple parfait, c'était les dernières élections législatives, où globalement le RN avait été un peu laissé tranquille par les médias en termes de diabolisation. Voilà, ils en faisaient pas des caisses. Et puis d'un seul coup, il y avait les élections législatives. Et là, ils ont senti qu'il y avait véritablement un enjeu, une capacité du RN à arriver au pouvoir. Donc là, d'un seul coup, ils sont vraiment mobilisés. Et là, la propagande était absolument massive.
Et on a retrouvé l'arc républicain et toutes ces conneries.
Ouais, absolument.
Donc...
Et ça, pour le coup, Trump, c'est l'exact inverse de ça. Trump, c'est je vous déplais et allez vous faire voir. Voilà.
Je vous déplais, mais ça fait rien. Vous avez... Ce que disait Mme Thatcher, elle disait « je suis au pouvoir ». Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y aura des élections, vous voterez contre moi et vous me battrez.
Mmh.
Donc je ne cherche pas à vous plaire, je cherche à gouverner. Et elle a été élue une première fois, puis réélue deux fois, ce qui était à peu près sans exemple dans l'histoire britannique jusque-là. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quand est-ce que les gens comme le Rassemblement National, vont-ils décider de gouverner pour leurs idées, en mettant leurs idées devant, et c'est le fait qu'ils ne le fassent pas me fait penser qu'ils n'en ont pas.
Oui, effectivement, oui. Effectivement, on ne sait pas exactement aujourd'hui quelles sont les idées du Rassemblement National. Il y a une sorte un peu de gloubi-boulga.
Sur l'immigration, c'est
même,
pas très
même
bien.
Sur l'immigration, finalement, l'immigration, c'est un peu le socle à la base du vote Rassemblement National, et c'est tellement évident que finalement, ils n'en parlent plus tellement. Pour éviter aussi, justement, de remettre une pièce dans le jukebox de la diabolisation, mais à continuer comme ça, juste, vous allez continuer à perdre, et ce, même, en fait, on peut perdre tout en étant élu, tout en étant au pouvoir.
Oui, parce que si vous arrivez au pouvoir et que vous pouvez rien faire,
ouais. Bah, vous avez perdu, de fait.
Vous avez perdu, de fait. Donc, voilà. Ben écoutez, donc c'est intéressant parce que cette espèce d'éclaircissement géostratégique des États-Unis qui ne peuvent plus financièrement s'occuper de l'Europe.
Ouais. Ben, ça va forcer en fait l'Europe à entrer dans des gros changements politiques.
Voilà, parce que.
Ben, ouais, pour nous, c'est une très bonne chose.
Pour moi, ça me paraissait évident. Pour des tas de gens, ça les a surpris. Mais maintenant, bon, maintenant que c'est acté. Ben, le projet européen perd toute validité. Parce que si vous faites une armée européenne, bon, qui aura le droit d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire française? Un Français? Ou un général, je sais pas quoi, autrichien?
Allemand ou autrichien.
Qui serait le général de l'armée européenne? Il n'y a pas d'armée européenne. Il y a une armée française, il y a une armée. Mais il n'y a pas d'armée française, il n'y a pas d'armée européenne. Et il ne peut pas y avoir de force de frappe nucléaire européenne. Parce qu'il n'y a pas de président de l'Europe. On ne va pas donner la charge à Mme van der Leyen d'être qui peut appuyer le bouton sur notre force de frappe. Donc, si vous voulez, on retrouve la vérité, c'est que les nations existent. La défense de la nation, ça existe. Ça suppose des investissements, ça suppose des sacrifices. Et on ne le fera pas au niveau européen.
Ouais.
C'est la fin de l'Europe de Jean Monnet.
Oui, c'est tout à fait une possibilité, et même c'est de plus en plus certain. Et ça peut arriver très vite.
C'est en train d'arriver.
Ça peut arriver très rapidement. Nous, au niveau national, on n'a pas l'impression de voir des grands changements s'opérer parce que dans le quotidien, il se passe littéralement rien. Mais effectivement, c'est le genre de choses qui peut arriver très vite. On l'a vu aux États-Unis. Et en plus de ça, ce qui se passe aux États-Unis est un énorme accélérateur. Alors, à court terme, c'est le genre de choses qui peut nous rendre peut-être plus pauvres. Mais à long terme, c'est ce qui nous rendra plus riches et plus libres, surtout.
Plus libres. Et plus pauvres, on est déjà plus pauvres à cause de toute cette dette imbécile qu'on a accumulée. Mais dès le moment où on sera plus libre, on tiendra en état de remonter. Mais là, le système de la dette qu'on a accumulée fait qu'on ne peut que baisser. Donc, si vous voulez, tout le monde est négatif, les femmes cessent de faire des enfants. Mais dès le moment où on redevient libre, eh bien, la situation s'améliore. Et à ce moment-là, la vie reprendra son cours.
Ouais.
Mais pour l'instant, on est dominé par la mort.
Ouais, effectivement.
C'est effrayant. La mort, l'euthanasie, il y a une grande étude qui est sortie qui disait que faire l'euthanasie, ça, si on faisait l'euthanasie, ça économiserait, je sais plus, 1,7 milliard d'euros, je sais pas quoi. J'ai dit, mais quels sont les connards qui ont fait cette analyse?
Oui, ça doit être un copain d'Atali, quelque chose comme ça.
Et comment, je veux dire, c'est encore une marchandisation extraordinaire, parce que comment pouvez-vous penser que des enfants qui n'ont plus accès à leurs grands-parents, les grands-parents, ça peut être très important pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est très important, paraît-il. Alors, on fait des économies parce qu'ils n'ont plus accès à leurs grands-parents. Mais on ne sait pas ce que ces enfants vont faire s'ils n'ont pas eu accès à leurs grands-parents. Ce que je veux dire, c'est comment mesurer ça? Ils sont complètement cons avec leur PIB, leurs économies.
Ils adorent mesurer des trucs.
Le coût de la sécurité sociale, mais.
Ouais. Je crois que j'avais vu un truc tout à l'heure. C'était, je crois, je sais plus si c'est la Banque de France ou je sais plus quelle, peut-être l'INSEE, qui avait déjà mesuré le déficit de l'État français pour 2045. Alors j'ai
le mec.
Formidable. Ils sont très très utiles. Hein. On comparera ça avec les chiffres réels. Je pense ça promet d'être intéressant parce que à mon avis,
il y a un budget présenté depuis 50 ans que l'on voit.
Ouais.
Qui n'ait pas été présenté en réduction de 3 ans plus tard.
Oui, à chaque fois,
et
évidemment,
3 ans
c'est
plus
toujours...
tard. Donc, il faut sortir du mensonge. La démocratie ne peut marcher que si les gens pensent que ceux qui sont au pouvoir leur disent la vérité telle que eux l'aperçoivent, mais pas de, parce que là tous les gens pensent que les gens au pouvoir leur mentent sciemment, donc on peut pas les croire.
Oui.
Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment le truc de l'Union soviétique. Ils savent que nous, qu'ils mentent. Oui. Nous savons qu'ils savent. Ils savent que nous savons. Et pourtant,
ouais,
ils mentent.
Ouais, ouais, tout à fait.
Donc, il faut sortir de ce putain de mensonge.
Ouais. Effectivement. Bah, une fois pour toutes, la vérité vous rendra libre, j'ai
envie
de dire.
Voilà. Et Vance, il en est sorti.
Ouais.
Il a dit, je vais vous dire la vérité.
Et non seulement il en est sorti, mais il va peut-être nous permettre d'en sortir aussi.
Voilà.
Donc voilà, tout ça, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour les von der Leyen ou autres de ce monde. Mais je pense que pour nous, Européens, en fait, ce qui est formidable, c'est que ce que Vance a dit à ces technocrates, c'est exactement ce que nous, on veut faire avec ce continent et surtout, en fait, avec notre pays. Et si tous les pays font ça, ce sera le cas aussi à l'échelle du continent. Mais effectivement, on devrait avoir une armée digne de ce nom. Pour ça, il faut quand même être capable de faire des économies. C'est-à-dire que mettre 3% du PIB dans la défense, c'est très bien. Mais si vous êtes déjà en déficit de 6%, c'est un peu compliqué.
Il faut peut-être essayer de récupérer 4 ou 5% de ceux-là qui servent à rien.
Ouais.
Et je suis persuadé qu'il devrait y avoir une corruption qui est au moins équivalente à celle de l'État américain.
Oui.
Donc,
oui, en termes relatifs, oui, tout à fait, c'est clair.
Donc, c'est...
Et pareil, toute l'histoire de rétablir une certaine liberté et d'écouter le peuple, bon bah c'est un petit peu ce qu'on dit sur cette chaîne quand même depuis des années quoi. Donc ça je crois qu'on peut pas dire le contraire.
Ouais, j'aurais pu l'écrire le discours de Vance. J'aurais été très fier si je l'avais écrit, mais grosso modo c'était des idées qui me sont chères.
Ouais, absolument. Donc pour nous c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais évoquer sur ce discours et sur ce qui se passe dans le monde de manière générale. Je crois que vous avez pas mal discuté de cette conférence de l'ARC ce matin.
Qui avec, aussi travaille sur tous ces sujets-là et qui est un signe de renaissance intellectuelle aussi.
Voilà, exactement. C'était assez rafraîchissant et en fait on voit à quel point on peut avoir des grandes similitudes avec des gens du monde entier, notamment du monde occidental. Voilà,
et alors on s'est rendu compte, j'étais très content.
Ouais.
On s'est rendu compte à ce moment-là dans l'ARC, quelque chose qui est très intéressant, c'est que je vous ai beaucoup parlé ici de l'Institut de formation politique, vous savez, d'Alexandre Pezet,
tout à fait.
Et qui a fait monter cette espèce d'école où on apprend aux jeunes qui veulent apprendre des choses intéressantes et tout. Et les anglo-saxons se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'Institut de formation politique.
Ouais.
En dehors de, qu'on était les seuls à l'avoir.
Ouais.
Donc, ils sont tous, il y en a beaucoup qui demandent en ce moment à Alexandre de les aider à fonder un institut de formation
tout
politique, au Canada, un autre en Hongrie, un troisième. Donc, on se rend bien compte que ces renseignements internationaux, ça permet des idées qui semblent bien marcher dans un pays, d'être piqué par le pays d'à côté.
Tout à fait. Effectivement, il y a une bonne circulation d'idées et Alexandre a pu faire un discours donc au moment où on tourne, c'était hier matin. Donc nous, on avait toute la délégation française, on avait notre petit carré dans le public, donc on s'est bien fait remarquer. Je pense
qu'on a fait du bruit.
Je pense qu'on a été la délégation de toute la conférence la plus bruyante, très clairement. Je pense que les gens ont plutôt apprécié, ils ont aimé cet enthousiasme, surtout peut-être venant de français. Et effectivement, il a fait un très bon discours qui en fait encourageait à l'action parce que ce que fait l'Institut de formation politique, c'est vraiment très important. Et si jamais il y a notamment des jeunes qui nous écoutent et qui sont intéressés pour faire des petits week-ends de formation et rencontrer d'autres jeunes un petit peu comme eux qui ont envie d'avoir des projets, pas forcément politico-politiques, mais on va dire en lien avec la défense de leurs idées de manière générale, et ben effectivement, je vous renvoie en fait vers l'Institut de formation politique, voilà, tout simplement. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire.
Voilà. Ben, merci beaucoup.
Et ben merci beaucoup. Et puis là, on va enchaîner avec une vidéo sur l'Université de l'Épargne. Donc voilà, encore une fois, si jamais vous voulez nous rejoindre sur l'Université de l'Épargne,
je vais changer de veste pour faire croire que c'est un autre.
Voilà, c'est grandement autorisé et même encouragé.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup.